Bonjour, bienvenue dans notre 41e émission, notre sujet Goya, troisième partie. En 1775, c'est un tournant dans sa vie car le 3 janvier 1775, il part à Madrid. Après 30 ans à Saragosse, il s'installe chez le peintre Francisco Bayeux, peintre en vogue et qui est aussi son beau-frère. Il travaille, vous le savez, pour la manufacture de Santa Barbara, l'équivalent des gobelins en France. Il réalisera 63 cartons pour des tapisseries destinées aux palais royaux. En 1778, nouveau tournant dans sa vie, l'État espagnol demande à ces jeunes artistes de faire des gravures des grands peintres espagnols. Goya va apprendre la technique de la gravure et il va choisir Velázquez. Il fait pendant 1 à 2 ans des copies des chefs-d'œuvre de Velázquez. Pour créer des gravures, au total environ 16 gravures, des eaux-fortes. En 1780, il envoie un tableau, Le Christ crucifié, une île sur toile, nous en avons parlé dans notre émission précédente, à l'Académie royale. Le tableau est accepté par le jury, il est remarqué et il devient membre de l'Académie royale des beaux-arts de Madrid. Le tableau est au musée du Prado. Goya devient apprenti à être noble pour devenir de Goya. En 1781, retour à Saragosse, commande religieuse, Bayeux est chef de chantier et Goya va peindre une coupole à la basilique du Pilar. Nous l'avons signalé dans une émission précédente. Mais cette peinture ne plaît pas à Bayeux, donc ni aux commanditaires, et il y a une brouille pendant quelques années entre Bayeux et Goya. En 1781-1782, une peinture religieuse importante à Madrid le remet en selle. En 1783, il peint la famille de Louis de Bourbon. Premier portrait réalisé par Goya, Louis de Bourbon, c'est le frère du roi. La femme de Don Luis émane une lumière sur le tableau, sur tous les personnages, dont Louis, par ailleurs, lui, est assis, fatigué, le regard hébété. Et derrière lui, son fils de 6 ans, à la longue chevelure, et juste derrière lui, sa sœur, Maria Teresa, joyeuse, regarde le Goya peintre. Dans le tableau, Goya se représente en train de peindre. En 1784, il a un fils, seul enfant survivant, qui lui-même aura un fils. En 1783, on peut voir un autoportrait de Goya, un corps de profil en train de peindre, le regard dirigé vers le spectateur. À 40 ans, en 1786, il est nommé peintre du roi, reconnaissance. Il achète une voiture, un cabriolet, un immeuble, il achète un immense chapeau et apprend le français. Et sur ce chapeau, il mettra des bougies pour peindre le soir. En 1788, mort de Charles III à 72 ans, et son successeur Charles IV le prend comme peintre de cour, peintre bien sûr fonctionnaire par rapport à la vie du roi, à la disposition du souverain. En 1792, il publie un rapport sur l'apprentissage de la peinture à l'Académie. Il plaide pour une liberté de la peinture, c'est le peintre qui doit faire la peinture. En 1792, un tableau très intéressant, La femme conversant, commande d'un ami, un illustrados riche, qui est un ami de Goya, qui est une huile sur toile. Deux femmes en conversation animée, contraste opposant les zones de lumière et d'ombre. Nous savons aussi que l'Inquisition espagnole interdit le nu. Fin 1792, il part se reposer à Cadix, puis chez un ami à Séville, et en 47 ans, en 1793, il a failli mourir. Il a un AVC, paralysie, il devient aveugle. De retour à Cadix pour se reposer pendant quelques mois, à l'issue de cette attaque, il devient sourd. Il va basculer Goya avant Goya. Goya comprend qu'il doit être génial et à partir de cette promiscuité avec la mort, on va avoir un nouveau Goya. Il fait une série de petits tableaux sur fond blanc, je vous les cite, vous irez les voir. Exemple, Le Préau des Fous, La Casa de los Locos, il peint la folie. C'est un précurseur du romantisme, il peint sans obéir à une commande. En 1784, il va introduire la liberté de la peinture, il va proposer des tableaux à des collectionneurs et il écrit une lettre qui accompagne ces tableaux. Je cite une œuvre intéressante, La mort du Picador, huile sur fer blanc. La mort du Picador est violente, un taureau encorne un picador et la pointe de la corne traverse sa fesse. Picasso aura une source d'inspiration par rapport à ses tableaux. Goya dira « Je me suis mis à peindre un ensemble de tableaux de cabinet, donc de petites toiles, dans lesquelles j'ai réussi à faire une place à l'observation qui est d'habitude dans les œuvres commandées et où le caprice et l'invention ne peuvent être développés. » En 1795, il devient directeur du département de peinture de l'Académie. En 1996-97, il voyage en Andalousie avec la duchesse d'Albe et il se met au dessin, sans raison, pour le plaisir de dessin. Au total, plus de 1000 dessins, ce ne sont pas des dessins de préparation, c'est des dessins pour les dessins. Les dessins de nu aussi, la liberté de création, vous regarderez deux femmes sur un lit qui est un dessin très intéressant. Et puis en 1787, début des caprices. Alors qu'est-ce que c'est Los Caprichos? Ce sont des fantaisies. Et ainsi il va faire une série de 80 gravures qui sont des satires de la société espagnole de la fin du XVIIIe siècle, en particulier de la noblesse et du clergé. En 1798, vous connaissez l'œuvre, le miracle de Saint-Antoine de Padoue, fresque de la coupole de l'ermitage Sant'Antonio de Florida. C'est un chef-d'œuvre, nous l'avons étudié dernièrement, et ce sera aussi dans cet ermitage le lieu où il sera enterré. En 1799, c'est le premier peintre de la cour du roi et il reçoit une pension conséquente de 50 000 réaux. En 1801, portrait de toute la famille royale de Charles IV. Enfin, 1808-1814, Napoléon occupe l'Espagne, Joseph Bonaparte est roi. Beaucoup d'illustrados ont soutenu Joseph parce qu'il incarnait l'esprit libéral. Mais le 2-3 mai 1808, Goya va peindre hors commande Elle tresse des maillots. Un chef-d'œuvre, le 3 mai, qui est au Prado. Goya montre ainsi qu'il est patriote. Et puis une autre œuvre, Elle dosse des maillots, de 1808. C'est un soulèvement des madrilènes, sanglante répression par l'armée de Murat, charge des mamelouks et des chasseurs à cheval. Le tableau est aussi appelé la charge des mamelouks. Revenons sur le 3 mai 1808, Elle tresse maillot. À droite, on voit des soldats français, vus de dos, visage invisible. C'est un bloc compact. Les fusils convergeant vers les victimes, forme déshumanisée, violente. Et à gauche, les condamnés. Certains prient, d'autres cachent leur visage, d'autres regardent avec effroi. On voit désespoir, la peur, la résignation, la révolte. Le personnage central de ce tableau est vêtu d'une chemise blanche, les bras écartés, les paumes visibles, et qui fait face au fusil. Les bras rappellent la crucifixion, la chemise blanche, l'innocence. Une tache rouge sur une main, stigmate, point d'interrogation. Le visage exprimant la terreur, l'homme ordinaire et devient martyr, c'est la souffrance du peuple. À noter une lanterne posée sur le sol, seule source lumineuse éclairant les victimes, en particulier l'homme en blanc. L'homme, l'ombre et pour les soldats, l'environnement. Ce n'est pas une peinture héroïque, mais on voit les victimes anonymes, c'est une tragédie humaine. Et ce tableau est un précurseur de la modernité. On en revient à l'exécution de Maximilien, tableau de Manet, tableau de Pablo Picasso Guernica et aussi photographie de guerre du XXe siècle. C'est une lecture historique, politique par la violence, universelle, la peur, la mort. Il montre ce que la guerre fait aux hommes. En 1812, sa femme meurt et en 1813, il rencontre une nouvelle compagne. 1819, il achète une maison de campagne, la Quinta del Sordo. Alors, c'est la villa de l'homme sourd. Pourquoi ? Parce que le précédent propriétaire était sourd. Maison de 2 étages et dans cette maison, il va en faire des peintures dites noires, 14 fresques pour décorer les murs. Elles sont exposées actuellement au Prado. Après sa mort, elles seront transférées sur toile. Une en particulier, Saturne dévorant son fils. En 1820, nouvelle attaque, crise, il est sauvé par le docteur Arrieta. Et nous avons un tableau, Goya et son médecin. En 78, voyage en France, son excuse, c'est une cure thermale, mais c'est une excuse, il ne supporte plus la monarchie espagnole, exil de Goya en 1824 jusqu'à sa mort. Il s'installe à Bordeaux, mais il fera des trajets entre Bordeaux et Madrid pour toucher sa rente. Il se lance alors dans la lithographie. Il ira aussi à Paris, mais nous avons peu d'informations sur ce séjour. Il meurt à 89 ans à Bordeaux. Il est enterré à Bordeaux. Ses cendres seront rapatriées en Espagne en 1899 sans la tête. Sa tête a disparu, c'est un mystère. Il repose à l'ermitage de Sant'Antonio de la Florida à Madrid. Merci, bonne journée à vous et rendez-vous à notre dernière séance, la 42e émission.